Ma vraie langue maternelle. À l'heure où je termine l'écriture de La vie après Siam, le scénario de mon deuxième long métrage, après 3 ans d'écriture et plus d'une quinzaine de versions, j'ai à nouveau envie de te parler de cinéma. Et de la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de cet art, que j'ai vraiment découvert vers mes 17 ans. Tout d'abord, et je ne crois pas que ce soit un hasard, le cinéma est né muet, comme les nourrissons qui viennent au monde sans avoir l'usage de la parole, mais qui ont plein d'autres moyens de communiquer. Alors les premiers auteurs du cinéma ont dû inventer un langage qui ne passe pas par les mots. En art, et comme souvent dans la vie, ce sont les contraintes qui font émerger les plus belles expressions du génie humain. Le langage du cinéma muet ne repose pas sur les images, enfin pas que. La vraie révolution cinématographique apportée par ce cinéma des premiers temps, c'est celle du montage, c'est-à-dire comment la juxtaposition de plusieurs plans peut recréer l'illusion de l'espace, l'illusion du temps, et devenir une brique fondamentale de la construction des récits. Le montage permet les ellipses, il permet aussi les associations d'idées, et nous aide à appréhender la réalité différemment, en nous proposant par exemple plusieurs points de vue à l'intérieur d'une même scène. Pour moi, cela ressemble étrangement à ce que nous vivons. Dans nos rêves, par exemple, on passe souvent d'un endroit à un autre en une fraction de seconde, on associe entre eux des éléments qui n'ont rien à voir. Et puis dans nos vies aussi, est-ce que nous ne sommes pas simultanément ici et ailleurs, comme dans un montage parallèle ? Finalement, le langage du cinéma est peut-être aussi la langue maternelle de notre cerveau, de nos rêves et de notre vie. C'est peut-être pour cela qu'il m'a autant parlé quand je l'ai découvert à mes 17 ans. Le cinéma muet a produit des chefs-d'œuvre, des Russes comme Dziga Vertov ou Eisenstein, génies du montage dynamique, ont composé des symphonies visuelles, pendant qu'ailleurs en Europe, Jean Epstein, Fritz Lang, Maurice Stiller, Victor Sjöström développaient une vision esthétique du cinéma, travaillant la lumière, le clair-obscur, la perspective et la composition des plans. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, toujours plus pragmatiques, des cinéastes ont mis tout leur talent au service de l'émotion et de l'efficacité narrative, apprenant à jouer avec les attentes du spectateur, à cultiver l'humour, l'attirance et le désir, au service de la dramaturgie. Les 3 dernières années du cinéma muet, entre 1927 et 1930, ont offert une quantité impressionnante de chefs-d'œuvre. Et puis, soudain, le verbe est arrivé. Et la parole fut. Et ce fut surtout une grosse période de régression artistique pour le cinéma. Un peu comme lorsque les enfants découvrent l'écriture et que leur dessin, soudain, perdent de leur foisonnante créativité. Désormais, avec le parlant, la priorité n'était plus au rythme, au montage, mais au dialogue. Certains génies du cinéma muet, qu'ils soient acteurs ou cinéastes, n'y ont pas survécu. David Griffith, Eric von Stroheim ou encore Buster Keaton. D'autres, au contraire, ont su s'adapter à ce nouveau langage et ont vu leur talent se déployer encore plus, comme Jean Renoir, John Ford ou encore Ernest Lubitsch. Moi, j'ai été fasciné par la découverte du cinéma muet. Ces vieux films étaient comme des ovnis. J'allais à la cinémathèque et je tombais sur des œuvres hypnotiques venues d'un autre temps, dont les acteurs et les auteurs étaient pour moi d'illustres inconnus, alors qu'ils avaient sans doute été des vedettes internationales à leur époque. Mais voilà, ces gens étaient tous morts. Et je crois que cela n'était pas du tout anodin dans la fascination que j'ai ressentie devant ces films, j'en parle dans cet article que je te mets en lien. J'allais à la cinémathèque donc, et je me délectais de tomber presque chaque soir sur un chef-d'œuvre. Forcément, le temps avait fait son tri et la cinémathèque était devenue le musée des meilleurs films du passé. Ces films, pour moi, étaient totalement déconnectés de ma réalité quotidienne. C'était comme un monde parallèle de fantômes inconnus qui surgissaient tous les soirs. Cette distance temporelle entre ces films et moi, je crois qu'elle m'a permis de les voir pour ce qu'ils étaient. en dehors de leur dimension commerciale, celle qu'ils ont pu représenter à l'époque de leur sortie. Je les ai vus comme des œuvres d'art. Et ça tombait bien, parce que pour moi, à cette époque, je voyais le cinéma surtout comme un divertissement sans profondeur, fait par des vedettes capricieuses qu'on allait regarder en mangeant du pop-corn. Et là, j'ai découvert cet art à part entière qui avait son propre langage. Un langage dans lequel les choses ne sont pas dites et qui peut se passer des mots pour exprimer l'essentiel. Et je crois qu'une grande part de moi s'est reconnue là-dedans. L'enfant tumultueux que j'étais, traversé par des émotions très fortes et incapable de mettre des mots sur ce qu'il vivait, a trouvé dans le cinéma muet un refuge. L'adolescent timide, incapable d'exprimer son désir devant les filles qui l'attiraient, y a peut-être trouvé un espoir. Les scénaristes disent souvent « show don't tell ». Au cinéma, ne dis pas les choses, montre-les. La force du cinéma, pour moi, elle est ailleurs. Pas dans le fait de montrer, mais dans le fait de savoir suggérer, et cela de manière très indirecte. Prenons un exemple simple qui peut même te paraître évident, mais qui montre toute la puissance du cinéma et du montage. Plan numéro 1. Un homme, derrière sa fenêtre, regarde vers le bas à travers une paire de jumelles. Plan numéro 2. Vu depuis la fenêtre, donc en plongée, une femme debout à un arrêt de bus réajuste ses bas. Le plan est assez serré et se focalise sur les mains de la femme qui remonte ses bas jusqu'à ses cuisses. Ces deux plans, pris séparément, ne signifient pas grand-chose de plus que ce que l'on y voit. Une femme qui fait une action assez ordinaire, un homme qui regarde à travers ses jumelles vers l'extérieur. Mais l'assemblage de ces deux images fait naître un sens nouveau. Ici, ce qui relie ces deux plans, c'est le désir de l'homme. La nature du deuxième plan devient alors l'expression subjective du regard de l'homme aux jumelles. On pourrait même inverser ces deux plans, commencer par la femme qui réajuste ses bas et ensuite passer par le plan de l'homme aux jumelles qui l'observe, et on pourrait se demander si l'effet et le message seraient les mêmes dans cet ordre-là. En tout cas, voilà où se situe la magie du cinéma pour moi. Le message du désir, ici, celui de l'homme aux jumelles, y est suggéré. Il y a peut-être même une autre suggestion plus indirecte encore qui est exprimée à travers ces deux plans et à travers le cinéma. Le désir de l'homme aux jumelles est peut-être juste une métaphore ou un miroir de notre propre désir de spectateur. Ce que je n'ose pas faire dans la vie, je peux le faire à travers cet homme. Ce n'est pas moi, la personne respectable, qui suis en train de regarder la femme qui rajuste ses bas. C'est lui. Je ne suis donc pas coupable de la regarder. Voilà ce que pour l'adolescent que j'étais, le cinéma a inventé. La permission de regarder nos propres désirs sans honte ni culpabilité. La possibilité de nous identifier à tout type de personnages et de pouvoir vivre grâce à eux et à travers eux nos désirs et nos émotions, même les plus enfouis et les plus inavoués. Je me suis reconnu et j'ai eu envie d'apprendre à parler cette langue-là. Et je pourrais parler d'une autre dimension du cinéma, plus mystérieuse encore. C'est celle qui m'a guidé aujourd'hui dans l'écriture de mon scénario et qui consiste à capter les âmes de vivants, les âmes des vivants. J'ai évoqué ce rapport à la mort et en fantôme dans cet article que je te mets en lien et je reviendrai probablement dessus, tant le sujet me paraît important.